Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, les habitants du village Katekou et ses environs dans les territoires de Walikale sommés de quitter massivement leurs foyers depuis 4 jours. Selon des sources sécuritaires sur place, cette décision des rebelles est motivée par les attaques répétées des miliciens Wazalendo dans la zone. Le chef de l'État appelle les jeunes à contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire et au développement du pays. Félix Tshisekedi a mobilisé cette catégorie sociale hier samedi à Kinshasa lors d'un échange au stade Tata Raphaël. Notre invité, le docteur Bruno Mitéo, désormais professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi. En marge de la soutenance de sa thèse hier samedi, il recommande que l'État puisse s'impliquer davantage que l'État puisse encourager le secteur de la production bovine. Nord Kivu, pour commencer, les habitants du village Katekou et ses environs dans le groupement Ikobo en territoire de Walikale quittent massivement leur foyer depuis 4 jours. D'après des sources sécuritaires sur place, cette décision des rebelles est motivée par des attaques répétées des miliciens Wazalendo dans la zone. La société civile de Walikale dénonce et condamne fermement cette mesure qu'elle qualifie de violation grave des droits humains. Suivez les propos du président de la société civile de Walikale, Fiston Missouna.
Nous venons ici pour dénoncer le manœuvre du M23 qui ont sommé la population de Katekou dans le groupement Ikobo en secteur de Wanyanga, territoire de Walikale, de quitter leur village. Et à cela, nous constatons que c'est une violation qui continue à être enregistrée. On se rappelle encore bien que dans le village d'Impombi, ils avaient fait encore cette situation. Et puis après, nous avions enregistré le cas des assassinats, les cas de massacres et des tueries de plus de 20 civils de ce côté-là parce qu'ils avaient refusé de quitter leur village. C'est pourquoi cette situation risquerait d'enregistrer les dégâts collatéraux, notamment sur le plan éducationnel et sur le plan sanitaire, parce que lorsque vous forcez à une population de quitter leur village, subitement, forcément et directement, comme conséquence, il y aura rupture sur le plan éducationnel auprès des enfants, sur le plan sanitaire auprès de ces enfants, mais aussi à toute cette population qui serait dans ces entités de Katekou et ses environs.
Et puis les éléphants divagation ont tué 2 personnes dans le territoire de Malembankoulou, en province du Olomami. Le drame s'est produit hier samedi, peu avant midi, plus précisément dans les groupements Kakombo et Kabumbulu. Ne pouvant plus aller au champ des peurs de se faire tuer par ces pachydermes, la population locale demande aux autorités de tout faire pour les refouler, car si rien n'est fait, les habitants mourront de faim, leur champ étant ravagé par ces animaux. On écoute Ngoï Mouloumé Kisuba, joint depuis le village Kakombo par Jean Gantou.
Un malheur s'est abattu sur notre village. Une femme, veuve de son état, a été tuée ce samedi matin par les éléphants. Ces éléphants sont venus de la province du Tanganyika et ont traversé le fleuve avant de se retrouver dans notre village. Ils sont environ 150 et ils se sont dirigés dans nos champs de manioc qu'ils ont totalement ravagés. La pauvre femme a été retrouvée dans son champ où elle travaillait. Elle a été tuée sur place. Puis, ces éléphants sont allés dans un autre village de nos voisins de Kabumbulu. Là aussi, ils ont tué un homme. À l'heure actuelle, il nous est difficile pour nous d'aller au champ. Nous demandons aux autorités de tout faire pour refouler les éléphants afin de nous permettre d'aller chercher à manger en brousse, car pour l'instant, nous ne pouvons pas nous y rendre.
Par ailleurs, Médecins sans frontières met fin à ses activités d'urgence à Baraka, au sud Kivu. Dans son communiqué parvenu hier samedi à Radio Kapi, cette organisation internationale précise qu'elle avait prévu de se retirer de Baraka fin janvier 2026. Mais à ce jour, cette fermeture s'est accélérée en raison de la situation sécuritaire observée dans la province. Des détails avec Askin Zigbia.
Face à l'intensification des combats à la suite de l'avancée du groupe armé M23 et à sa prise de la ville d'Ouvira, située à seulement 100 kilomètres de Baraka, MSF a jugé bon d'évacuer ses équipes de la ville. Les activités médicales à l'hôpital général de Baraka ainsi que dans 3 centres de santé sont terminées, indique cette ONG internationale. Entre août et décembre, les équipes de MSF à Baraka ont pris en charge plus de 25 000 personnes à atteinte de paludisme. Et en pleine saison de pluie, la situation reste critique. Nous atteignons le pic de la saison du paludisme et nous sommes inquiets car nous ne pouvons pas apporter les soutiens nécessaires à la population, déclare Thunberg, chef de programme au Sud Kivu. Entre septembre et octobre, MSF avait aussi traité 652 patients atteints du choléra et était parvenu à contrôler l'épidémie. À Bouyakiri, le récent affrontement dans le parc national de Kahuzi entre le M23 et l'armée congolaise alliée au Wazalendo ont déjà provoqué l'évacuation partielle des équipes de MSF. Mais l'ensemble des activités médicales de l'organisation dans l'hôpital général de référence de Bouyakiri, le centre hospitalier de Bital et plusieurs centres de santé restent assurés, conclut son communiqué.
Dans la province du Maniema, les enseignants du territoire de Kailo, en particulier ceux de l'axe Nyoka, réclament les paiements de leur salaire de 3 mois, notamment les mois d'octobre, de novembre et de décembre en cours. Selon leur délégué syndical, les enseignants ne savent pas prendre soin de leur famille, surtout en cette période de fin d'année. Misenga, Chamilungu, Stéphane plaident pour l'implication des autorités afin qu'une solution soit trouvée. Il est au micro de Florence Kizalunga.
Juste pour venir montrer l'indignation des enseignants des territoires de Kailo, en général et en particulier, Axe Nyoka et ses environs. Nous réalisons 3 mois sans être payés par l'agent PR Caritas. Il s'agit des mois d'octobre, novembre et décembre. Les enseignants ne savent pas comment ils doivent festoyer avec leur famille à la fin de l'année. C'est pourquoi nous lançons maintenant un cri aux autorités de nous venir en aide pour l'agent PR Caritas et l'IFOD qui puissent nous payer notre argent. Autant propice. La situation nous handicape beaucoup plus. Nous, de l'intérieur, il y a de nos enfants qui étudient à la ville, mais ils sont chassés parce que nous ne sommes pas encore payés, nous les enseignants de l'intérieur. Et aussi, le salaire a un caractère alimentaire. Imaginez, quand vous avez 3 mois sans être payé, comment est-ce que vous allez vivre? Comment nous allons maintenant faire soigner nos enfants quand ils tombent malades? Nous recourons toujours au Banque Lambert, chose qui ne peut pas se faire pour un agent ou fonctionnaire de l'État. C'est pourquoi, avant que le pire n'arrive, nous demandons aux autorités d'intervenir rapidement.
Le chef de l'État appelle les jeunes à contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire et au développement du pays. Félix Tshisekedi a mobilisé cette catégorie sociale hier samedi à Kinshasa lors d'un échange au stade Tata Raphaël. L'objectif visé, amener les jeunes à jouer pleinement leur rôle dans l'avenir de la société congolaise. Les explications avec Blaise Nongala Mayanda.
Cet échange a permis au chef de l'État de donner la parole aux jeunes et à exposer leurs différentes préoccupations sur des sujets aussi variés que l'emploi, l'entrepreneuriat, la lutte contre la précarité, le financement des projets et l'encadrement des start-up. Prenant la parole, Félix Tshisekedi a répondu sans détour à ces diverses questions des jeunes avant de lancer un appel à un engagement patriotique en ces temps difficiles où la RDC fait face à l'agression rwandaise. Devant plus de 3000 jeunes venus de toutes les provinces, le président de la République a déclaré, je cite, « C'est pour cette raison que j'ai dit que le patriotisme a quelque peu disparu dans ces pays. Mais il n'est pas trop tard. Notre population est majoritairement jeune et nous devons réinculquer cette valeur fondamentale du patriotisme dans notre jeunesse. C'est à ce prix que la nation sera sauvée dans les années à venir. » Fin de citation. L'échange entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise relance ainsi les débats sur la situation réelle de cette catégorie sociale qui, à travers les pays, fait face à plusieurs fléaux, dont le chômage et diverses formes de justice sociale. Cette activité intervient un mois seulement après la table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes.
Au Kasaï central, le projet d'édite budgétaire pour l'exercice 2026 a été voté à l'unanimité par les députés provinciaux hier samedi tard dans la nuit. Le texte a été présenté en séance plénière par le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou, et le vote a eu lieu après un débat houleux avec les élus. Ce budget est estimé à plus de 532 milliards de francs congolais. Détail avec André Katende Ngalamouloumé.
Les 34 députés provinciaux ont pris part à cette plénière destinée à doter la province d'une prévision budgétaire pour l'année 2026. Chiffrée à plus de 532 milliards de francs congolais, le budget du Kasaï central connaît une hausse de 34,30% par rapport à l'exercice 2025. La société civile salue l'adoption de ces budgets. Daniel Ntumba Chimanga, coordinateur provincial de la structure des Bouts congolais pour le développement durable, rappelle toutefois que le budget 2025 a connu un faible taux des projets à impact visible. Il appelle les gouvernements provinciaux à rendre réalistes les activités prévues dans cet édit 2026.
Dans le rapport passé, les gouverneurs de province ont mobilisé les fonds, mais investissement, il n'y a rien. Et pourtant, c'est ça l'avenir de la population. C'est comme ça que nous avons dit qu'il fallait le faire des recommandations, de sorte que dans les budgets de 2026, la mobilisation soit à la hauteur et que les besoins de la population soient pris en compte.
À noter que l'examen de l'édit budgétaire 2026 a été précédé de la présentation du rapport d'exécution du budget 2025 pour le premier semestre, au cours duquel le gouverneur a indiqué qu'une grande partie des fonds avait servi à la paye du personnel. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Okapi.
Le Conseil interreligieux congolais salue les processus de paix de Washington et de Doha et insiste sur la tenue d'un dialogue sincère entre les acteurs sociopolitiques congolais. Les coordonnateurs de cette structure, l'archevêque Dodo Kamba, a exprimé cette position hier samedi à Kinshasa lors de la présentation du cadre de coordination des partenariats pour la paix et la sécurité en RDC. Sur le plan interne, ce pasteur souhaite que les Congolais s'impliquent réellement pour la cohésion et l'unité nationale. Les propos de l'archevêque Dodo Kamba ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Nous avons d'abord salué les accords qui ont été signés à Washington entre la RDC et le Rwanda. Nous espérons à une paix durable. Malheureusement, nous constatons que ces actes ont repris. Pensons à Walung, à Uvira, où il y a encore des tueries. Ça nous dérange énormément. Et là, nous appelons aux acteurs, nous appelons aux signataires de pouvoir respecter, n'est-ce pas, leurs engagements. Pensons que ça devrait être une voie qui pourra apaiser toute la tension dans la sous-région. Et en ce qui concerne la RDC elle-même, à l'interne, nous disons que le dialogue entre Congolais est une très bonne résolution, mais nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait une commission qui soit mise en place, que nous appelons Vérité et Réconciliation. Une commission qui fera le travail de rapprocher les différents acteurs au conflit.
Notez que ce cadre de coordination des partenariats pour la paix et la sécurité encourage les partenaires techniques et financiers à apporter leur contribution à l'amélioration du bien-être social des Congolais. Et d'autre part, les conditions carcérales restent précaires dans la prison urbaine de Boma, au Congo central. Cette question a été au centre des échanges organisés par l'ONG Avocat des droits de l'homme, ADH, en sigle, à l'intention notamment des autorités judiciaires. C'est en marge de la célébration du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, Gabriel Makiese, point focal de l'ONG Avocat des droits de l'homme dans la ville de Boma, a lancé un appel au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de tout faire pour améliorer les conditions carcérales des prisonniers de Boma. Des détails avec Nana Plurich Mambou.
C'est dans le cadre de l'implémentation du projet d'appui à la protection des personnes détenues dans les prisons de Ndolo à Kinshasa et à Boma au Congo central que l'ONG Avocat des droits de l'homme, ADH en sigle, a organisé cette activité qui a connu la participation notamment des autorités judiciaires, pénitentiaires et politico-administratives ainsi que les acteurs de la société civile. Le point focal de l'ONG Avocat des droits de l'homme à Boma revient sur l'importance de cette rencontre. Gabriel Makiese.
Si nous avons décidé pour cette activité, c'est en tenant compte du contexte crucial, déplorable et alarmant selon lequel les conditions carcérales, tant au plan alimentaire, hygiénique et sanitaire, restent précaires, mais aussi du contexte selon lequel l'illégalité et l'irrégularité de la détention est constatée dans certains cas.
L'ADH appelle les ministres d'État, ministres de la Justice et garde des Sceaux à se pencher sur la question des conditions carcérales dans la prison de Boma. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Tentative d'évasion vendredi dernier à la prison centrale de Moba dans la province du Tanganyika. L'administrateur du territoire indique que les forces de sécurité ont maîtrisé la situation. Elles ont tiré des coups de feu pour contenir les détenus. L'autorité du territoire appelle la population au calme. Le point avec Paul Emunanga.
Les détenus voulaient casser la porte principale de la prison centrale de Moba pour s'évader. Mais grâce à l'intervention des forces de sécurité, l'évasion a été déjouée. Victor Canfoy, administrateur du territoire de Moba.
Ce sont des prisonniers. Celui qui est prisonnier cherche à tout moment de s'évader, de revenir à la vie. Ils étaient agités, je n'ai pas su entrer et parler avec eux. Personne ne s'est évadé et personne n'a été blessé. Donc on a tiré dehors pour les effrayer. Je ne connais pas la cause de cette tentative d'évasion. Que la population reste calme et que la population ne fait pas allusion à la guerre. C'est une tentative d'évasion des prisonniers.
Rappelons que cette situation intervient après l'évasion ce vendredi des 5 détenus de la prison centrale de Kalemi. Les détenus se sont soulevés et ont mis le feu à l'intérieur de la prison. Les éléments de garde de la prison ont tiré pour contenir les détenus. Les bilans fait état de 3 blessés, dont un l'a été grièvement par balle. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Soudan, l'Organisation des Nations Unies proteste après la mort de 6 casques bleus bangladais dans une attaque dans les Kordofan. Ils ont été tués hier samedi dans une attaque des drones au Soudan, a indiqué la force onusienne de maintien de la paix dans la région. Le quartier général de l'ONU au centre de la ville de Kadougli aurait été directement visé. L'armée régulière a attribué l'attaque à ces derniers qui ont démenti.
L'invité.
Notre invité, le docteur Bruno Mitéo, désormais professeur à la faculté de médecine vétérinaire de l'université de Lubumbashi. En marge de la soutenance de sa thèse hier samedi, il recommande que l'État puisse s'impliquer afin d'encourager les secteurs de la production bovine. C'est après avoir constaté dans ses recherches que depuis quelques années, le pays connaît une baisse de la production bovine. Il s'entretient avec Paul Munanga.
Professeur Bruno Mitéo Nyenge, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui justifie le choix du titre de votre thèse, déterminant de l'efficacité des services publics de production et de santé bovine en RDC de 1990 en 2023, défis et perspectives?
Je crois qu'il faut dire que les déterminants sont des facteurs impact qui influencent positivement ou négativement l'efficacité des services de production et de santé bovine dans notre pays. Il faut dire aussi que le choix de ces sujets est dû à l'importance de bovins. Le bovin constitue en réalité dans notre pays, République démocratique du Congo, une composante essentielle de l'économie de notre pays, mais aussi du développement et de la sécurité alimentaire. Même depuis l'époque de l'indépendance, nous assistons à une baisse continue de la production bovine. Je me suis dit, il faut que je m'intéresse à cela. Sur le plan personnel, c'est d'abord parce que je dois pouvoir valoriser ma carrière professionnelle. Sur le plan de la recherche scientifique, il est question de savoir qu'il n'y a aucun développement qui peut se faire dans aucun pays du monde si la science et la recherche ne s'y mêlent pas. Diop avait dit, sans science ni recherche, eh bien, le développement, c'est un mirage. C'est ce qui a pu justifier le choix de ces sujets, à savoir des déterminants de l'efficacité des services publics de la santé et production bovine.
Quelles sont les recommandations que vous formulez en rapport avec votre travail?
Les recommandations sont liées essentiellement aux résultats auxquels on est arrivé. On est arrivé à quoi? On est arrivé à ceci, à savoir, sur le plan de la disponibilité de ressources, entendez par là ressources humaines, ressources financières, ressources naturelles, ressources matérielles. Et bien, sur ce plan, il faudrait que l'État congolais mobilise des ressources au profit du secteur de l'élevage bovin. La deuxième recommandation, c'est lié pratiquement au système de santé des animaux. S'il n'y a pas une épidémiosurveillance, je veux dire, s'il n'y a pas un œil vigilant sur la prévention des maladies, ce qu'on appelle la prophylaxie, s'il n'y a pas un œil sur l'hygiène, eh bien, nous courons un très grand risque d'une grande contagiosité des maladies des animaux aux hommes et vice-versa. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur l'implication de notre gouvernement dans le cadre des zoonoses, maladies communes aux animaux et aux hommes. Et vous le savez, plus de 75% des maladies dont souffre l'homme sont d'origine animale. Les grands grandes maladies qui affectent l'homme. Je pense à la rage, à la brucellose et à d'autres maladies.
Pour un citoyen lambda, quel est l'apport de votre travail dans la vie courante?
L'apport, c'est en rapport avec l'attente de ces citoyens, l'attente de cet homme des rues, l'attente de la population. Mais quelle est son attente? Son attente, en fait, c'est de pouvoir couvrir ses besoins en protéines d'origine animale. Or, il faut les lui procurer. Jusqu'à présent, je ne dis pas que ça date d'hier, ça date de longtemps, eh bien, il n'y a que 10% de besoins en protéines d'origine animale qui sont couverts. Et le reste, 90%, viennent d'où? Viennent d'autres ressources sauvages, importations, etc. Et donc, l'homme de la rue, la population, les éleveurs, les acteurs, les professionnels, les chercheurs, eh bien, ils veulent bien voir une amélioration, une redynamisation de ces secteurs. Et ces secteurs, cette détermination ne peut que passer par le schéma que j'ai pu proposer.
C'est quel schéma exactement, professeur?
La mobilisation de ressources en premier lieu qu'il faut affecter à l'appui institutionnel et de l'autre côté, il faut que cette mobilisation puisse en réalité être dotée sur les infrastructures de l'élevage. Cela va si le personnel sur le plan institutionnel renforcé, eh bien, s'il a des capacités, il va avoir un œil vigilant sur l'épidémiosurveillance, sur les maladies qui peuvent surgir, comment il faut pouvoir les gérer. Mais aussi, ce personnel va faire en sorte que les habitudes, les pratiques culturelles dans nos milieux, dans l'élevage traditionnel, eh bien que cela soit amélioré sur le plan de la recherche scientifique. Je voulais terminer par dire que la concurrence déloyale que nous vivons aujourd'hui par des importations, par des fraudes, par des pratiques illégales, eh bien cette concurrence déloyale ne peut que être diminuée si le système est bien bouclé.
Professeur Bruno Miteyonyenge, merci.
Je vous remercie.
Notre invité, le professeur Bruno Miteo, s'entretenait à Lubumbashi avec Ponle Munanga. Fin de ce journal qui a été mis en onde par Alain Goy, Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Infiniment merci de l'avoir écouté.